Berger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1. Je suis enchantée de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie, accompagnés jusqu'à 16h par ma très facile camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors cette heure, c'est la vôtre. On va parler de ces personnalités difficiles qui nous empoisonnent la vie. On a tous, dans notre entourage, un collègue qui nous pompe l'air parce qu'il râle tout le temps ou cherche à attirer en permanence l'attention sur lui. Un conjoint ou un ex-conjoint caractériel qu'il faut manipuler avec précaution. Un voisin trop curieux ou une tante hystérique qui fait dégénérer tous les repas de famille. Des caractères qu'on dit difficiles et dont l'attitude provoque chez nous du stress, beaucoup de stress. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les éviter, les ignorer tout simplement parce que ce sont nos patrons, un membre de notre équipe ou alors parce qu'ils font partie de notre groupe d'amis ou encore de notre famille. Et la difficulté, c'est que ces râleurs, ces narcissiques, ces paresseux sont souvent dans le déni. Impossible d'avoir pris sur eux, de leur parler de façon rationnelle. Ils ne comprennent pas ou font mine de ne pas comprendre. Alors si certains profils semblent plus faciles à gérer, les anxieux, les paranoïaques ou les psychorigides, on peut les rassurer. Les paresseux, on peut les cadrer en leur confiant des tâches au fur et à mesure. D'autres, comme le fameux pervers narcissique, sont insaisissables et profondément toxiques. Narcissique, hystérique, tyran ou manipulateur, comment gérer les personnalités difficiles? C'est notre sujet aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages. Racontez-nous votre expérience, celui ou celle qui fait de votre vie un enfer. Nous sommes là pour vous écouter.
Et oui, pour joindre Ève Roger, appelez-nous au standard Europe 1, le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous laissez un petit message et puis on vous rappelle si vous êtes sélectionné. Vous pouvez aussi laisser un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou encore sur la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Alice. Alice, bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alice, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'ai 26 ans et je vous appelle de Nice.
Alors votre problème, vous Alice, c'est une collègue qui râle tout le temps et sur tous les sujets.
C'est exactement ça, aucun sujet n'est épargné, elle râle en permanence et toute la journée.
Alors elle sur quoi ? Alors donnez-nous quelques exemples.
Alors elle va râler sur des choses perso, c'est-à-dire sa vie en dehors du boulot, son jardin, son conjoint, son chien. Elle va aussi râler sur tout ce qui est possible et imaginable au boulot, c'est-à-dire le bureau est mal rangé, ce projet est mal mené, cette personne est désagréable, absolument tout.
Tout le temps.
Elle a même râlé sur le fait qu'il y avait une rampe handicapée à la sortie de notre immeuble, ce qui faisait faire un détour de 2 mètres en marchant.
Ah oui, donc elle, dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour râler en fait.
C'est ça.
Et le problème aussi, vous nous dites, c'est que non, elle ouvre la bouche très souvent puisqu'elle est hyper bavarde.
C'est ça, elle est très bavarde, elle parle en permanence. Mm-hmm. C'est-à-dire que je peux travailler une heure sur mon ordinateur devant elle sans qu'elle arrête de me parler, alors que je ne fais aucun signe pour lui indiquer que j'écoute ou que je veux continuer la conversation.
Et elle parle de quoi ?
De tout.
De
mais
tout.
En très négatif.
Tout en râlant. Et alors, elle dit souvent des choses, des méchancetés, en particulier sur le physique des autres. Et je crois que vous-même, elle vous a fait des remarques désagréables.
C'est ça. C'est vraiment... je ne pense pas que dans sa tête, ce soit des méchancetés. Mais comme vous dites, c'est sur le physique. C'est-à-dire qu'elle m'a fait la réflexion que j'avais des grands pieds, chose sur laquelle je complexe depuis que je suis petite. Oh. Et que j'avais des grosses cernes et que je devais vraiment être très fatiguée. Et c'était à 3 minutes d'écart l'un de l'autre.
Et comment vous avez réagi à ce moment-là ?
Alors, c'était une période de stress, donc je lui ai dit, écoute, je n'ai pas besoin de ce genre de remarques comme ça sur moi, merci d'arrêter. Et après, j'ai coupé la conversation pour pas que ça parte.
Et elle critique aussi le physique des gens qu'elle croise tout le temps aussi.
Mais c'est toujours en fait de la critique permanente, qui n'est pas méchante, mais qui est toujours là. C'est-à-dire, c'est une autocritique et une critique du monde extérieur permanent.
Et pourquoi vous dites-elle qu'il n'est pas méchante ? Parce que c'est désagréable de dire quand même à quelqu'un qu'il a des grosses cernes.
Alors c'est très désagréable, mais elle ne le voit pas comme une critique négative. Par exemple, je lui ai fait la réflexion comme quoi il ne fallait pas critiquer mon physique, que je n'appréciais pas ça. Et elle n'a plus jamais dit un mot là-dessus.
Donc elle a compris.
Entendu,
oui.
Elle a compris. Mais le problème, c'est que ça s'applique à tous les sujets et que je ne peux pas faire la remarque sur tous les sujets.
Mmh. Donc vous dites qu'elle plombe l'ambiance de tout le bureau en fait.
Bah, dès qu'on a une petite victoire, une célébration, alors tout ne se passe jamais comme prévu, évidemment. Il y a toujours un mauvais côté présent, mais elle le relève tout le temps, elle le met au premier plan, au lieu qu'on soit juste satisfait de cette journée de travail, de cet atelier, de cette chose.
Et vos collègues, elles partagent le même avis que vous sur cette collègue râleuse ?
Tout à fait, on est une équipe de 5.
Ouais.
Et en fait, au début, à son recrutement, personne ne s'est rien dit parce que bah, moi, je me disais que c'était peut-être un problème de compatibilité entre elle et moi. C'était peut-être pas que elle, finalement. Ouais. Et du coup, j'ai rien dit. Au grand dam de mes proches, de mon conjoint qui en a soupé en entendant toute la journée mes complaintes. Et au bout de 3 mois, j'ai une autre collègue qui a craqué et qui est venue vers moi en disant « Mais est-ce que ça se passe bien avec elle ? Parce que moi, j'arrive pas à travailler avec elle, etc. Mm-hmm. » Et au fur et à mesure, les 4 autres personnes ont craqué.
Ah oui.
Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. C'était plus un problème personnel, quoi.
Mais ça a dû vous soulager quand même de plus vous sentir seule comme ça face à elle.
Ah, j'ai recommencé à dormir.
Ah oui, parce que vous aviez arrêté de dormir.
Bah, j'en faisais des cauchemars.
Mais des vrais cauchemars ou c'est parce que vous ruminiez sa présence ?
Ça m'impactait dans ma vie personnelle. Et le soir, je me suis plusieurs fois réveillée avec une sensation de malaise parce que j'avais cauchemardé que je faisais telle ou telle activité avec elle.
Mais c'est horrible ce que vous nous racontez.
Et
oui. Vous avez dit, quand vous avez compris ensemble qu'il y avait un problème avec cette collègue, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez décidé d'une mise en marge de quelque chose ?
Alors en fait, cette personne était en CDD, qui se finissait à la fin du mois dernier. Et il était de notre sort de prévenir notre hiérarchie, qui ne travaillait pas directement avec elle, que ça ne se passait pas bien pour qu'après la hiérarchie décide de la garder ou non.
Ah oui. Et donc, vous êtes allé prévenir la hiérarchie ?
Oui.
Alors ça, c'est intéressant parce que comment vous avez exprimé ces sentiments vis-à-vis de votre hiérarchie ? Qu'est-ce que vous avez dit ?
Alors, l'avantage que j'avais, c'est que outre ce comportement entre guillemets personnel qui impacte le pro, qui nous dérange, il y avait aussi des problèmes dans sa façon de travailler, qui sont un petit peu indépendants de ça, mais qui ont fait qu'on avait, on va dire, une base concrète de plaintes vis-à-vis de ses missions.
Une base objective. Après, si elle pourrit l'ambiance de l'open space, ça concerne aussi le supérieur hiérarchique. Est-ce que vous avez... Donc, vous êtes soulagée maintenant, mais vous dites à un moment, c'était elle ou moi, quoi.
Ah oui, tout à fait. À un moment, c'est ce que j'ai dit, en fait, quand j'ai expliqué la situation à ma hiérarchie qui revenait de congé, en plus, pendant quelques mois, donc qui n'avait pas conscience de tout ce problème, j'ai presque explosé en sanglots en disant, là, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus, quoi.
Et comment ils vous ont comprise ?
Tout à fait, ils m'ont dit, alors déjà, on va s'en occuper. Ils ont enlevé cette responsabilité de mes épaules, déjà, parce que ce n'est pas à moi de décider si on garde ou pas une collègue. C'était hyper dur comme décision aussi de terminer son contrat pour ça, quoi. Enfin, ce n'est pas à moi de dire ça. Et ils s'en ont occupé, ils ont fait remonter, ils ont fait des entretiens de son travail objectif. Et ils ont aussi discuté avec tous les membres de l'équipe pour savoir si non seulement au niveau du travail, ça ne correspondait pas, et si le sentiment de problème dans l'équipe concernait tout le monde.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils lui ont parlé de son comportement ? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, elle a été consciente du comportement qu'elle avait et de la façon dont elle empoisonnait la vie de votre vie ?
Je ne pense pas, vraiment. C'est-à-dire qu'en parallèle de ça, elle est très serviable, elle est très gentille. Elle se pliera en quatre pour nous, mais c'est juste qu'elle est insupportable.
C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est comment elle peut à la fois dire des méchancetés, être insupportable et en même temps être gentille et serviable. Ça, j'ai du mal à comprendre la possibilité.
Parce que je pense qu'elle ne voit pas que c'est des méchancetés, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour elle, c'est juste son avis sur la vie, sur tout. Et elle ne se rend pas compte que ça peut blesser certains gens. C'est un manque de tact ou peut-être un manque de codes sociaux, finalement. Qui fait qu'elle ne se rend pas compte que ça saoule tout le monde.
Et pour terminer, Alice, vous dites que ça vous a beaucoup impacté, y compris dans votre vie avec votre conjoint. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi ça vous impactait tant ?
C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte avec les autres collègues que dans chaque couple des personnes impactées, il y avait un nom. C'est-à-dire qu'on appelait ça le problème avec son nom, ou alors la mission, quelque chose. Il y avait vraiment toute une histoire dans chaque cellule familiale qui traitait de ça, tellement ça prenait de la place dans notre vie.
Ah oui, c'est incroyable.
Et qu'on avait besoin de ventiler un peu et de laisser tomber la pression en arrivant à la maison et de raconter toute la journée atroce.
Et est-ce que vous diriez aujourd'hui, pour les auditeurs qui nous écoutent ou les auditrices, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a permis justement, vous nous l'avez dit un peu tout à l'heure, qu'est-ce qui a permis de vous sauver d'une certaine façon ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce que vous auriez dû faire peut-être pour ne pas supporter ça pendant si longtemps ?
De partager peut-être plutôt mon ressenti. Mais c'est délicat parce qu'en même temps, ça met en cause une personne à un stade où je n'étais pas sûre si le problème c'était elle ou moi ou notre entente.
Oui, mais en fait, si vous aviez partagé plus tôt, vous auriez au moins été soulagée puisque vous nous avez dit que vous avez réussi à dormir à nouveau une fois que vous l'aviez partagé.
Oui, c'est ça. Là, les derniers mois, je savais que ça allait se terminer. Donc c'était un petit peu désagréable, mais sans cette grande pression et stress que j'ai eu les mois d'avant.
Bon, en tout cas, on est bien content pour vous, Alice, que ce soit réglé. Merci, hein, merci beaucoup pour votre témoignage. Dans quelques
merci
instants, nous serons en ligne avec Thomas qui, lui, a eu maille à partir avec une voisine.
Europe 1. Depuis quelques années, les psychologues s'intéressent de plus en plus à ces personnalités difficiles qui causent beaucoup de problèmes à leur entourage et qui se nuisent aussi à elles-mêmes si souvent. Vous pouvez d'ailleurs témoigner sur Europe 1. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h pour la joindre et raconter votre histoire. Appelez-nous au 3921.
Ève Roger sur Europe 1.
Qui est-ce que j'ai pas vu encore? Berger, ça va? Berger? Oui, oui. Fermez votre corsage, Berger. On voit tout votre soutien-gorge. Fermez. Voilà. Hein? Puis fermez votre gueule aussi, parce que vous m'énervez. Ouais, vous avez rien dit, je sais, mais c'est en prévision. Vous m'énervez. Vous avez une voix qui m'agace. Bourlier, ça va, Bourlier? Oh, petite mine aujourd'hui, hein? Oh, mais grosse haleine, par contre, hein? Oh là là! Non, bah, restez éloigné de moi, à distance. Voilà, par là-bas. Merci. Oui, non, mais je vous aime pas, Bourlier, c'est pas nouveau.
Laurence Foresti, un extrait du chef. Pour poursuivre cette émission, partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h. On parle des personnalités toxiques, difficiles, parfois narcissiques. Bref, comment les gérer? On en parle avec vous, Ève Roger.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Thomas. Bonjour Thomas, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors Thomas, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Je vous appelle de Paris, j'ai 29 ans.
D'accord, et votre problème Thomas, c'est une voisine qui vous a gâché la vie le soir même de votre installation, racontez-nous.
C'est vrai que ça a débuté assez tôt. J'ai rapidement compris que la relation allait être un peu particulière avec cette voisine qui partageait du coup une cloison avec nous.
Donc vous arrivez avec votre copine dans un appartement, vous êtes content, et là qu'est-ce qui se passe?
C'est ça. En fait, on n'était pas arrivé depuis 5 minutes dans cet appartement qui était vide. On a mis un peu de musique sur le téléphone, quoi, avec un volume sonore qui était assez moindre. Et il n'a pas fallu 2 minutes, je crois bien, pour qu'elle vienne taper à la porte et commencer à nous signifier que c'était pas possible, que ça allait pas pouvoir se passer comme ça, que...
Vous avez mis un peu de musique pour fêter votre arrivée, quoi. C'était comme...
Puis 18h, c'était de la musique sur un téléphone portable. Il n'y avait rien, quoi, dans l'appartement. Ouais. Donc bon. Et voilà, c'est
et
là
ça
que ça a commencé.
Voilà, le début d'une longue série.
Ça a été crescendo. Ça passait par beaucoup d'intrusions dans la vie privée. Si on descendait manger quelque chose dans la petite cour qu'il y avait en bas. J'ai souvenir qu'on avait acheté des pâtisseries à la boulangerie et qu'elle est immédiatement descendue pour nous signifier que c'était pas possible de manger ça, que c'était des produits chimiques. Mmh. Voilà, elle se mêlait de tout le temps.
Et comment vous réagissiez? Je pense qu'au début, vous avez essayé d'être plutôt conciliant, j'imagine, comme tout le monde.
Au début, on comprend pas trop, quoi. On se demande un peu... Déjà, comment réagir? Donc, j'essayais d'être sympa, j'essayais de le prendre bien, quoi, simplement. Je me disais que c'était pas grave. Mais c'est quand sa manière de discuter a commencé à évoluer que c'était plus compliqué.
Vous voulez dire quand elle a commencé à hurler, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est plutôt les hurlements qui étaient compliqués parce que dans la vie quotidienne, elle pouvait pas s'empêcher, en fait, à tout moment, de venir non pas toquer à la porte, mais de venir tambouriner le plus fort qu'elle pouvait. Et à peine j'ouvrais cette porte que c'était des hurlements, mais à pleine voix. Hein,
mais qu'est-ce qu'elle disait alors, en hurlant?
J'en peux plus. Enfin, parfois, c'était un peu sans queue ni tête. Mais elle hurlait, il suffisait que je ferme pas ma porte de la manière qui lui plaisait, vous voyez, en mettant bien la clé pour réussir à ne faire aucun bruit. Mmh. Immédiatement, c'était des hurlements. Mmh. Et quand on se retrouve face à quelqu'un qui hurle vraiment, là, on est désemparé, quoi. Mmh. Parce qu'on ne peut pas répondre, on ne peut pas discuter, on peut...
C'est un cauchemar ce que vous nous racontez là. Mais c'est à tel point que vous avez adapté votre mode de vie pour éviter le plus possible de faire du bruit.
Ah ouais, en fait, si j'étais au téléphone chez moi, ça lui convenait pas. Donc elle hurlait, et puis au bout d'un moment, on se demande si, elle renverse la situation, en fait. On se demande si c'est pas nous qui faisons trop de bruit, ou qui... Donc voilà, je chuchotais, je sortais chez moi pour téléphoner, je
faisais attention à tout. Vous quittiez votre appartement pour aller téléphoner dehors, pour pas faire de bruit?
Ah oui, oui.
Et je crois même, vous dites, vous chuchotiez tout le temps, y compris quand vous receviez des amis.
je leur demandais en tout cas de ne pas parler fort.
Et qu'est-ce que vous éprouviez à ce moment-là? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle gâchait votre vie complètement?
Ah bah oui, en fait, au bout d'un moment, c'est pesant, quoi. C'est pesant parce que on y pense tout le temps. Et puis on peut pas ne pas y penser vu que même si elle toque pas, elle hurlait tellement fort de chez elle, elle tambourinait au mur, mais fort, quoi. Ouais. Très fort. Bon, ça a été un cauchemar.
Et est-ce que c'est comme Alice, ça vous empêchait de dormir au bout d'un moment? C'est de penser à elle, de savoir qu'elle était là, qu'elle pouvait hurler à tout moment?
Bah, en fait, ça m'empêchait pas de dormir, mais c'était... Non, j'avais un bon sommeil, parce que j'arrivais à prendre de temps en temps un peu de recul quand même sur la situation, et me dire que bon... Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça m'a tellement pourri la vie que bon, bah, on a fini par déménager. Hein. Oh. Ça a été la seule solution qu'on a...
Elle a eu votre peau.
Là, on peut le dire.
Donc, j'imagine que vous avez quand même essayé de lui parler. Vous m'avez dit que ça servait à rien, mais est-ce que vous avez essayé d'alerter la copropriété, le syndic, enfin, de faire quelque chose?
Bah oui. En fait, moi, j'ai eu plusieurs réactions par rapport à ça. J'ai tenté la réaction cool en l'invitant à boire un café, à discuter. Bon. Et en fait, c'est une personne qui est vraiment cloîtrée chez elle. Et qui m'exprimait qu'au final, elle ne supportait pas que les gens puissent simplement aller bien, quoi.
Être heureux, avoir une vie chouette.
En fait, les moindres représentations de bonheur l'exaspéraient un peu. Et du coup, elle ne pouvait pas s'empêcher de...
Je crois même que vous avez une histoire avec un de vos amis qui était venu vous annoncer une bonne nouvelle.
C'est ça. Non, ben, un soir, on était avec mon meilleur ami, un autre ami à moi, et puis il nous annonce, il devait être 22h un samedi, qu'il était papa. Mmh. Et donc là, nous, très contents, on crie un petit peu, on dit génial. Et là, ben, il n'a pas fallu une minute pour qu'il fasse connaissance de cette voisine qui a tambouriné, et à peine j'ai ouvert la porte et les fameux hurlements ont commencé. Mmh. Ils nous expliquaient que c'était des comportements pour la cité d'hétéro pitoyable. Enfin bon.
L'hétérosexuel pitoyable, parce que l'hétérosexuel est content d'avoir un enfant, mais à l'homosexuel aussi.
Écoutez, moi j'ai pas trop d'explications à vous donner sur ces sentiments, mais non, c'était. Puis aujourd'hui, je vais vous dire, avec mes amis, on en rigole beaucoup. Hein, c'est devenu une.
Elle aussi, elle avait un surnom. Pour nous. Elle avait, voilà, c'est ça, c'était une légende. Elle avait un surnom. Avec votre compagne, vous l'appeliez d'un certain terme?
Et non, on l'appelait même pas trop. En fait, on essayait de pas trop aborder le sujet, de vivre comme si de rien n'était. On faisait comme on pouvait, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'elle est venue. Elle est venue nous déranger beaucoup avec mon ami aussi. Hein.
Et justement, est-ce que vous avez regretté je crois qu'on en parlera tout à l'heure avec notre experte, mais je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Est-ce que vous avez regretté d'avoir mis tant de temps à déménager? Enfin, un an. Est-ce que vous auriez dû déménager plus tôt, selon vous?
Sincèrement, oui. Oui, j'aurais sûrement dû déménager plus tôt. Après, c'est aussi ce qui pèse un peu à ce moment-là. Moi, j'habite à Paris, et c'est vrai que trouver des logements à Paris, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est sûr qu'on se dit, ah bon, bah du coup, je dois déménager. Et rien que se dire, en fait, qu'on doit déménager, ça prend beaucoup la tête aussi.
Ouais, je comprends. Mais est-ce que vous pourriez nous donner l'adresse pour qu'on n'aille pas s'installer là-bas?
En tout cas, je plains
ou un
les voisins qui ont pris...
qui ont pris la suite.
Ah là 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 là. Sans rigoler, je pense à lui ou à elle. J'y pense de temps en temps.
Ah oui.
Je me dis, qu'est-ce qu'il a dû... Enfin bon...
Eh ben, en tout cas, c'est gentil de votre part, vraiment beaucoup. Merci, hein, merci Thomas pour nous avoir fait partager votre expérience.
Non, pas de souci. Aujourd'hui, j'en rigole. Hein, vous savez.
J'entends. Ça n'a pas dû être facile. Merci beaucoup. Hein. Dans quelques instants, nous serons avec Hélène Vecchiali, auteure de Maître les pervers, échecs et maths aux éditions Marabout. À tout de suite.
Europe 1. Et vous pouvez continuer de nous appeler au standard Europe 1 39 21. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Partageons nos expériences de vie, se poursuit jusqu'à 16h. 15h21, nous sommes avec Ève Roger jusqu'à 16h sur Europe 1. On parle aujourd'hui des personnalités difficiles, narcissiques, manipulatrices, colériques. Et comment les gérez-vous? On attend vos appels au 3921.
Et je me tourne maintenant vers vous, Hélène Vecchiali. Vous êtes auteure de Maître les pervers, échec et mat aux éditions Marabout. Vous êtes aussi coach de dirigeants et ancienne psychanalyste. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander si ces personnalités difficiles, dont les profils sont très bien décrits dans les manuels de management, sont si nombreuses que ça. On a le sentiment que ça pullule dans les open space. Alors, est-ce qu'il y en a plus qu'avant ?
Oh, je ne crois pas qu'il y en ait plus qu'avant. Je crois que l'open space crée un problème parce que là, on ne peut pas s'isoler. Oui. Donc, c'est compliqué pour les gens de se protéger des personnalités difficiles quand on est obligé d'être côte à côte.
Et est-ce que il y a des profils de personnalités difficiles qui sont plus courants que d'autres ?
Bon, je crois qu'il faut faire la part entre les personnalités difficiles avec des structures psychiques normales et les personnalités difficiles qui sont un peu borderline.
Ouais.
Donc les personnalités avec une structure normale sont des gens qui peuvent être hyper narcissiques, hyponarcissiques, manipulateurs, harceleurs, enfin voilà. Mais... ce sont des gens avec lesquels il est possible de discuter et qu'il est possible de confronter. En revanche, dès qu'on est dans des personnalités plus pathologiques, comme les pervers narcissiques, comme les narcissiques pathologiques, là, ça devient vraiment compliqué. En gros, si on devait faire une ligne de frontière entre les personnalités difficiles, inaccessibles, très pathologiques et les autres, les personnalités borderline, comme, je le répète, les pervers narcissiques ou les narcissiques pathologiques, sont des gens qui considèrent les autres comme des objets et pas du tout comme des humains. Là, malheureusement, à part fuir, il n'y a pas grand-chose à faire. En revanche, les personnalités normales qui sont excessives dans un sens ou dans l'autre considèrent les autres comme des humains comme eux, et là, il y a une possibilité de dialogue ou de médiation.
Et est-ce que j'ai l'impression que le monde professionnel, on a l'impression que ces personnalités-là, elles s'épanouissent très bien dans le monde professionnel. Est-ce que ce sont les mêmes dans la vie privée ?
Oui, c'est pareil partout. Ouais. Partout où il y a des humains, les personnalités sont identiques.
On ne peut pas être différent au bureau qu'à la maison, c'est-à-dire, non ?
Non. La structure, elle est là et elle fait que les gens se comportent de la même façon. Il y a, en revanche, certaines personnes vont garder leurs excès pour le privé et d'autres vont le garder pour le professionnel. Mais en gros, voilà.
On ne change pas tellement.
Oui. Voilà.
Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur les témoignages qu'on vient d'entendre. Et c'est vrai que Alice, qui raconte cette collègue qui râle tout le temps et qui dit des méchancetés toute la journée, on a envie de savoir, vous dites qu'il ne faut pas mettre des étiquettes, mais on a quand même envie de savoir un peu à quel profil elle correspond, cette collègue.
Mais là, on peut penser que c'est quelqu'un qui est hyponarcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui est en permanence dans la plainte, hein, c'est ce qu'elle décrit, Alice, quelqu'un qui, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, même quand il y a des réussites au travail, ce que racontait Alice, elle va voir tout de suite ce qui ne va pas. C'est la même personne qui va dire que si elle est allée chez le coiffeur, c'est le seul coiffeur qui va lui couper mal les cheveux ou lui rater sa couleur, que l'école où ses enfants vont, c'est la seule école où tout le monde travaille mal, où les enseignants sont catastrophiques, qu'elle ne trouve jamais de place dans un parking, que sa belle-mère est odieuse, que ses enfants ont toujours des poux, que... Enfin, voilà, c'est quelqu'un... Et il faut savoir que les gens hyponarcissiques, c'est-à-dire les gens qui se plaignent tout le temps, eh bien, en fait, se vantent de se plaindre.
Ah.
Ce sont des gens qui ont... se plaindre, c'est se vanter.
C'est une façon d'attirer l'attention sur soi.
C'est quelqu'un qui a besoin impérativement qu'on sache qu'elle existe, qu'il y a une souffrance existentielle massive et qui fait tout le temps du bruit, puisqu'elle parle tout le temps, et qui est tout le temps en train d'essayer d'obtenir un peu de compassion. Elle en obtient certainement, mais comme c'est pas la solution, c'est pas le remède, il faut recommencer ça tout le temps.
Et on a entendu qu'Alice s'est sentie un peu démunie. Est-ce que il y a ces personnalités-là ? Est-ce qu'on peut composer avec elle ? Est-ce qu'il y a une attitude à adopter pour qu'elle arrête d'empoisonner la vie de toute une équipe ?
Oui, ben Alice l'a très bien fait, puisque à un moment, elle lui a dit ne me dis plus des choses désagréables sur mon physique parce que ça m'attriste.
Oui.
Et ça s'est arrêté. Donc, ces gens-là, à part leur parler de cette façon-là, c'est-à-dire de façon assez assertive, en leur disant, voilà, ce que tu viens de dire là est désagréable et je souhaiterais que ça s'arrête, ces gens-là sont capables de l'entendre.
Mais en même temps, elle continue à râler sur tout, tout et rien, Alice disait, je ne pouvais pas la reprendre à chacune de ses phrases.
Oui, mais peut-être à ce moment-là, faire quelque chose de plus général en lui disant, est-ce que tu es d'accord que là, tu as râlé là-dessus, que tu as râlé là-dessus, que tu as râlé là-dessus, que tu as râlé là-dessus, et que c'est difficile pour moi d'entendre quelqu'un qui est sans arrêt négatif.
Et vous pensez que ça aurait marché si on avait
dit
ça ?
En tout cas, il fallait le tenter. Et c'est vraiment dommage que dans son entretien, lui signifiant qu'elle n'était pas gardée, que personne lui ait fait cette remarque. Parce que c'est des gens qui peuvent entendre ça, qui peuvent entendre qu'ils sont négatifs. En tout cas, s'il y a une chance qu'ils changent et qu'ils réalisent la difficulté dans laquelle ils mettent les autres, c'est en le leur disant.
Et puis si on parle de la voisine de Thomas... Moi, j'ai eu le sentiment qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, qu'elle était au-delà là, de toute frontière, comme vous disiez tout à l'heure.
Je pense que là, il n'y a que la loi qui peut intervenir. Là, il fallait faire intervenir la loi, c'est-à-dire obtenir des preuves, faire des enregistrements, des hurlements, et faire intervenir la loi, parce que là, on est dans quelqu'un qui a une pathologie lourde.
Oui, c'est ça.
Là, donc... on est dans la pathologie psychiatrique.
Et comment on explique qu'un chef tyran ou une collègue comme celle d'Alice s'amine à ce point-là ? Ça l'empêche de dormir, on y pense tout le temps. Comment c'est possible qu'on soit tant impacté ?
Parce que Alice l'a bien décrit, ce sont des gens qui entrent dans votre intimité, qui entrent dans votre territoire. C'est-à-dire que on peut fermer les yeux, on peut s'arrêter de respirer, on peut s'arrêter de manger, on peut s'arrêter de toucher, mais on ne peut pas s'arrêter d'entendre. Les oreilles, c'est le seul sens qu'on ne peut pas fermer.
Ouais.
Donc là, quelqu'un qui en permanence investit de façon toxique votre territoire, c'est très difficile. Et puis surtout, les victimes sont souvent des gens, les gens méchants, on va dire, ceux qui investissent les territoires, les gens intrusifs, choisissent pas n'importe quelle victime, ils choisissent des gens qui sont plutôt gentils, qui ont peur de faire mal, qui ont peur de répondre.
Ouais.
Et là, ils se déversent en permanence, où ils sont tyranniques parce qu'ils savent que l'autre a une propension à être gentil, à vouloir les sauver, à essayer de les comprendre. Donc, c'est beaucoup plus facile.
À arrondir les angles. Alors, pour terminer, Hélène Vecchiali, vous dites que la plupart de ces personnalités-là difficiles manquent de confiance en elles et qu'elles cherchent à être aimées. Et pourtant, on les déteste justement à cause de leur comportement. Donc, c'est quand même paradoxal.
Oui, c'est paradoxal parce qu'ils utilisent les mauvais moyens pour obtenir ce qu'ils veulent. Et comme ils ne l'obtiennent pas, ils pensent qu'ils n'ont pas été assez encore intrusif, donc ils en rajoutent.
Ils en rajoutent.
Et ils rentrent dans un cercle vicieux qui est terrible pour eux, mais surtout pour les autres.
C'est ça. Bon, restez avec nous, Hélène Vecchiali, on va continuer à parler avec vous. Vous êtes auteure de Maître les pervers, échecs et maths aux éditions Marabout. Dans quelques instants, nous allons accueillir Géraldine et elle va nous raconter l'enfer que lui fait vivre sa chef.
Europe 1. Et Claudie voulait réagir au témoignage de Thomas. Elle nous dit « Je trouve vraiment pervers d'obliger quelqu'un à vivre dans le silence à cause de sa voisine qui ne supportait pas le bruit. » Et si, comme Claudie, vous souhaitez nous laisser un petit message, hashtag Europe 1 ou encore le 3921. Narcissique, hystérique, fainéant, comment gérer les personnalités difficiles ? C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui jusqu'à 16h sur Europe 1. Allez, place à un nouveau témoignage, Eve Roger.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Géraldine. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, bonjour.
Alors Géraldine, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 41 ans, je vous appelle de Paris.
Alors Géraldine, votre problème, vous, c'est votre chef, une femme donc. Vous la décrivez à la fois comme tyrannique, narcissique, râleuse et perverse. Ça fait beaucoup pour une seule femme.
Ça fait beaucoup. Hein. En même temps, je n'ai pas de formation psy, donc c'est par des moments, là, des comportements assez pervers, d'autres narcissiques parce qu'elle ne parle que d'elle et n'y a qu'elle. Et tyrannique parce que c'est tout est moi en tout cas je le ressens comme ça, tout est en sous-entendu, les choses ne sont jamais dites ouvertement, voilà, c'est un sentiment que j'ai qui est très pesant en fait.
Et tyrannique, vous dites, ça veut dire qu'elle prend des décisions injustes parfois, je crois que ça vous est arrivé plusieurs fois.
Oui, très injuste par rapport à d'autres collègues, hein, ou juste par rapport à la situation. Par exemple, on a la possibilité de travailler chez nous, donc en télétravail. Moi, je ne l'accepte pas.
Et simplement pour vous ?
Oui, simplement pour moi.
Et elle a su vous l'expliquer pourquoi ?
Non, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, si, elle l'a expliqué, mais je lui ai dit que ça ne tient pas la route. Ton explication ne tient pas la route. Le travail que je fais, je peux le faire ici, ailleurs, même sur la plage, entre guillemets. Enfin, j'exagère, mais j'ai pas besoin forcément de rencontrer les personnes, etc. Donc, je peux le faire. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà réussi. Donc, il est où le problème? Oui, mais comme en plus je reviens d'un congé parental, etc., donc ça complique un peu les choses.
Est-ce que vous avez quand même, vous êtes un peu rebellée quand même, vous avez dit ton explication
ne
tient pas la route.
Ah oui, je suis rebellée par contre. Ouais, et en fait, depuis quelques mois, je me rebelle et en fait, c'est de pire en pire. Parce qu'en plus, on était assez proches parce que c'est quelqu'un qui est en plus dans l'affectif.
Ouais.
Donc attendez, quand on lui dit non, je suis pas d'accord, c'est encore pire. Comme j'étais par exemple un exemple tout bête, j'étais en maladie et on a tous des problèmes de santé par moment. Hein? Et du coup, j'ai entendu, par rapport à mes collègues, etc., me dire oui, a priori, tu veux poser des congés. Oui, ouais, mais elle n'est pas contente, etc. Donc, je l'ai pris à part. On lui dit, écoute-moi bien. Enfin, vraiment, j'étais un peu en colère. Hein. Je lui dis, j'étais pas au Bahamas, hein. J'étais en arrêt maladie. Hein. Oui, mais les gens disent n'importe quoi. Bah oui, mais t'arrêtais de parler. Ça irait en fait beaucoup mieux.
Et pourquoi vous continuez? Oui, c'est ça. Pourquoi vous continuez à lui parler si c'est de pire en pire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie à mettre en œuvre?
J'essaie en tout cas de prendre suffisamment de recul. Mais parfois, vous savez, on a tellement de la colère parce que les choses sont injustes. On est obligé, c'est quand même notre responsable.
Et est-ce que vous avez pu vous plaindre quelque part de votre chef, peut-être à un autre supérieur hiérarchique?
Oui, un autre supérieur hiérarchique. Je suis en attente d'une. Il faut que je parte
De votre service.
Je peux plus. Non.
Et comment vous êtes plainte? Vous avez fait quoi? Écrit une lettre? Vous allez lui parler?
Non, j'ai été lui parler.
Et vous avez dit quoi?
J'ai donné
les exemples,
tous les faits, tous les exemples, et la seule chose qu'ils peuvent me dire, en plus cette personne a déjà eu des problèmes, de harcèlement dans le passé.
Oui.
J'ai été quand même là pour elle entre guillemets, et là en fait on se rend compte que finalement ce qu'on fait à d'autres, on peut le faire à tout le monde.
Ouais, et ça fait combien de temps que vous supportez ça, Géraldine?
Ça fait deux ans maintenant.
Ouais. Géraldine, on va poser la question à notre invitée Hélène Vecchiali qui est une ancienne psychanalyste. Est-ce que vous pensez que Géraldine a affaire à une perverse narcissique simplement?
Non. Ah. Je pense pas. Je pense que même si c'est douloureux et difficile pour elle, cette personne-là est pas perverse narcissique. Elle est très certainement, comme l'a décrite Géraldine, elle est certainement hyponarcissique, c'est-à-dire un manque de confiance en elle absolue. Et elle pense que de lui avoir donné les galons de chef lui permet d'avoir un ascendant enfin sur les autres et de les maltraiter, de les harceler, de les bousculer, lui donne l'illusion qu'elle a un petit pouvoir. Mmh. C'est le problème des petits chefs, ça, hein, qu'elle a un petit pouvoir et que de fait, de cette façon-là, en se montrant ainsi, elle a l'illusion d'avoir un peu plus confiance en elle, ce qui bien sûr est faux.
Et si vous deviez donner un conseil à Géraldine?
Eh bien, c'est d'aller voir sa DRH, d'aller voir le médecin du travail. Je crois que dans les trois cas dont on vient de parler, le trait commun à ces trois personnes, c'est que ce sont des belles personnes. Ce sont des personnes qui sont belles, qui sont gentilles, pleines de compassion. Et de ce fait, leur difficulté à réagir tout de suite et à faire poser la loi fait qu'elles sont entrées dans des cercles vicieux de douleur pour elles-mêmes et de souffrance pour elles-mêmes. Mmh. Et bien sûr, ces personnalités difficiles et toxiques, c'est ce qu'elles cherchent. Elles cherchent des gens qui vont être susceptibles de faire durer la problématique assez longtemps pour avoir une petite jouissance et faire.
Donc il faut agir vite, quoi. Il faut pas laisser la situation s'installer.
Il faut agir vite.
Alors Géraldine, j'espère que vous avez bien entendu les conseils d'Hélène Vecchiali. Oui. On vous souhaite vraiment bon courage.
Bon
merci.
Courage, Géraldine.
Merci pour votre précieux témoignage. On vous dit donc bon courage. Et dans quelques instants, nous serons avec Philippine. Et Philippine nous racontera comment une coloc radine a empoisonné l'air d'un appartement qu'il partageait à quatre.
Europe 1. Et oui, intervenez au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Et si vous êtes sélectionné, on vous rappelle. Europe 1. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h sur Europe 1. On parle de tous ceux qui nous empoisonnent la vie au bureau ou à la maison, voisins intrusifs, collègues râleurs ou chefs tyrans. Allez, nouveau témoignage avec vous, Ève Roger.
Et nous accueillons maintenant Philippine. Bonjour Philippine, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Quel âge avez-vous, Philippine, et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 25 ans et je vous appelle d'Annemasse.
Annemasse, alors vous habitez en coloc à 4 et vous, l'une des colocataires, a réussi à vous pourrir complètement l'ambiance. Ça a commencé avec une histoire d'argent, je crois, qui au départ vous paraissait normale. Alors racontez-nous.
Donc nous avons accueilli une quatrième colocataire dans notre appartement. Mmh. Et car elle était, elle avait des problèmes d'argent, elle touchait le RSA, on lui a proposé au début de payer moins de loyer en espérant qu'elle retrouve rapidement un travail.
Alors, donc, moins de loyer, ça veut dire qu'elle payait 200 euros, je crois, et chacun de vous payait 400, c'est ça ?
C'est ça.
Et je crois que vous-même, vous lui avez proposé 250, mais qu'elle a mal compris.
Exactement.
et vous n'avez pas pu rectifier en lui disant, mais non, c'est pas 250, c'est 200.
La première fois que je lui ai demandé un loyer, je lui ai demandé quand est-ce qu'elle me le ferait, que c'était bien 250, et elle m'a dit, ah non, on avait convenu 200. Et voilà, on s'était mal compris.
D'accord, donc vous avez laissé passer. Et puis ensuite, oui. Ce qui vous a hérissé le poil, c'est qu'elle n'a jamais travaillé ni même cherché du travail.
Exactement.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée
pendant... Alors je ne sais pas, car moi-même j'étais au travail, mais quand on rentrait, en tout cas, elle était sur le canapé, sur son ordinateur, à chercher, de ce qu'elle disait, du travail.
Officiellement, elle cherchait du travail.
Voilà.
Et elle vous disait, je suis fatiguée, j'ai une journée difficile.
C'est ça, elle nous disait qu'elle n'avait pas du tout eu le temps de se reposer, qu'elle n'avait pas arrêté de la journée, à faire des recherches.
Ouais. Et à quel moment vous avez eu le sentiment qu'elle ne cherchait pas vraiment ?
Rapidement, quand on la voyait au quotidien, elle était quand même beaucoup sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries, donc on s'est posé des questions.
Et à quel moment vous vous êtes dit, est-ce que vous lui avez parlé, lui disant, on t'a laissé un moment pour pas payer de loyer, est-ce que vous avez essayé de...
On a eu du mal à lui dire. On est arrivé une fois, on s'est dit qu'il fallait qu'on en parle avec mes colocataires. Et donc, un de mes colocataires lui a demandé comment ça se passait, est-ce qu'elle avait trouvé un travail, est-ce qu'elle pouvait nous payer le loyer entièrement. Mmh. Et elle a pas très bien pris.
Ouais.
Elle n'a pas bien pris le fait qu'on en parle entre nous sans elle.
Ah oui, elle a eu l'impression que vous complotiez. En tout cas, elle vous a donné cette impression-là.
Oui.
Et est-ce que, Philippine, est-ce que vous habitez dans une région où il y a quand même pas mal de petits boulots ? Donc, vous disiez qu'elle cherche au moins un boulot alimentaire, le temps de trouver un vrai boulot. C'était ça, votre réflexion ?
C'est ce que j'attendais, oui. Mm-hmm. En voyant beaucoup d'offres dans les supermarchés... Ouais. Dans les magasins en général, je me disais qu'elle pouvait faire un travail alimentaire en attendant de trouver quelque chose qui lui plaise vraiment.
Et est-ce que vous aviez, malgré tout, une relation amicale, comme dans une colocation ? Est-ce que vous viviez un peu avec elle ?
Au début, oui. Mm-hmm. Et ça s'est rapidement détérioré.
Ouais, parce que vous en aviez un peu contre elle, quoi.
Alors oui, au fur et à mesure, on en avait un peu marre. Et même au quotidien, on n'avait pas les mêmes... la même façon de vivre, donc c'était difficile. Et ça s'est détérioré beaucoup avec un de mes colocataires, et là, depuis ça...
C'était la guerre.
Les relations sont difficiles. Ouais. Avec moi, ça va, mais... Ouais.
Et comment vous faisiez même pour l'alimentation ? C'est-à-dire qu'elle prenait vos produits dans le frigidaire aussi, ou comment ?
Non, chacun gérait sa nourriture.
Et donc, il n'y a jamais eu de problème de ce point de vue-là ?
Non, de ce point de vue-là,
non. Et ça a duré combien de temps, cette situation ?
Ça fait 6 mois.
Et il y a une anecdote que vous racontez que je trouve assez hallucinante, c'est quand votre sœur est venue vous voir. Alors racontez-nous ça.
Donc ma sœur est venue me voir pour un week-end et le dimanche on est allé faire un marché dans une commune à côté
et on voulait aller pique-niquer directement au lac après. Donc j'ai dit à ma colocataire que j'allais faire le marché, et elle a voulu venir avec nous, donc elle m'a demandé de nous accompagner. Et là-bas, donc nous, on achetait plein de produits pour faire notre pique-nique, et elle n'achetait rien. Donc au début, on s'est dit que peut-être qu'elle attendait un petit peu, et finalement, elle n'a rien acheté du tout. Donc on a un peu trouvé qu'elle profitait, donc on n'avait pas forcément envie qu'elle pique-nique avec nous. Donc je lui ai proposé gentiment de la ramener à l'appartement.
Et comment elle l'a pris? Elle a compris?
Je pense que oui. Enfin, en tout cas, elle s'est dit qu'elle me laisserait avec ma sœur. Et vous, je suis pas sûre qu'elle ait compris par rapport à ça.
C'est ça, vous ne lui avez pas dit, tu n'as rien acheté, donc tu ne viendras pas déjeuner avec nous.
Non, je lui ai dit, bon, bah, du coup, je te ramène à l'appartement.
Et elle a dit, ok, elle pouvait pas faire autrement. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'elle avait conscience, en fait, vous souffriez parce que vous avez le sentiment qu'elle profitait de vous. Est-ce qu'elle-même, vous pensez qu'elle avait conscience, justement, d'être une sorte de profiteuse, quoi?
Je ne pense pas qu'elle a conscience de ça. Pour elle, c'est normal qu'on paye plus parce qu'on gagne plus d'argent qu'elle.
Parce qu'elle ne travaille pas?
Non, elle touche le RSA.
Donc, si on résume, on peut dire que c'est un peu comme un boulet un peu radin, c'est ça? Ou elle avait d'autres traits de caractère qui vous semblaient aussi caractéristiques?
Je ne sais pas si je peux dire... radine.
Elle n'est pas radine. Vous diriez pas ça? Bah, ou paresseuse, pas, alors mais, bah, paresseuse, peut-être.
Oui, plus paresseuse. Bah, le fait qu'elle n'ait pas beaucoup d'argent...
Oui.
Donc, je ne sais pas comment elle serait si elle avait de l'argent, en fait.
Est-ce que vous disiez quand même qu'elle dépensait de l'argent et vous vous demandiez bien comment elle le trouvait, cet argent, non?
Oui, parce qu'elle va souvent dans les villes, dans les cafés. Elle fait des courses, quand même.
Donc, normalement, il ne lui restait pas beaucoup d'argent. Dites-moi, finalement, vous dites que ça fait 6 mois, mais quand même, vous avez réussi à trouver une solution.
Comment ça?
Je crois que la colocation se dissout.
Oui. Bon,
la solution, c'est que tout le monde vous arrêtez la colocation. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'elle-même, elle a trouvé une solution pour elle.
Oui.
Alors, racontez-nous.
Elle a trouvé une solution. Elle emménage donc avec son nouveau copain, son nouvel ami.
Elle a rencontré quelqu'un.
Voilà.
Depuis un mois.
Très peu de temps.
Et elle s'installe avec lui.
Oui.
Et vous savez comment elle va payer le loyer?
Non.
Vous ne l'avez pas demandé. Donc, elle a jamais payé plus que les 200 euros. Est-ce que cette personne a vraiment empoisonné votre colocation, vous diriez?
Oui.
Et est-ce que vous sauriez me dire comment? Comment?
Quand on se retrouvait tous les quatre, par exemple, dans le salon ou dans les pièces communes, c'est vrai que... Il y avait peu de relations.
Oui.
On n'avait pas grand-chose à se dire.
Il y avait une tension.
Un peu.
Et aujourd'hui,
et surtout depuis qu'avec mon colocataire, ça se passe mal. Et
parce que c'était vraiment un conflit frontal avec votre colocataire ou c'était un peu sourd comme conflit?
Ça a été frontal et depuis, ils ne se parlent plus.
Ah oui, donc c'est très désagréable quand on vit avec des gens qui ne se parlent pas entre eux. Quoi.
On la voit plus beaucoup. Elle passe beaucoup de temps dans sa chambre.
Ah oui. Bon, en tout cas, vous devez être soulagée là maintenant.
Oui.
Ah. En tout cas, merci. Donc, je vous souhaite pas bon courage parce qu'il n'y en a pas besoin. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Philippine.
Merci beaucoup.
Pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous allons retrouver Antoine. Lui a perdu de vue sa meilleure amie car elle avait choisi un conjoint trop tyrannique.
Nous sommes avec Ève Roger pour quelques minutes encore sur Europe 1, partageant nos expériences de vie. On parle des personnalités difficiles, narcissiques, hystériques ou fainéantes. Allez, comment les gérer? Un dernier témoignage avec vous, Ève.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Antoine. Bonjour Antoine, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors Antoine, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 24 ans et je vous appelle de Normandie, près de Rouen.
Alors vous, Antoine, c'est paradoxal, la personne qui vous empoisonne la vie, vous ne l'avez jamais rencontrée. C'est le petit copain de votre meilleure amie et vous ne le supportez pas. Alors racontez-nous comment c'est arrivé.
Alors en fait, c'est une amie que j'ai depuis maintenant 5 ans. Nous sommes rencontrés pendant mes études supérieures et pendant 3 ans, tout se passait très bien. Et le jour en fait, où elle a rencontré son petit ami, en fait, les relations se sont dégradées. Et en fait, jusqu'au jour où je ne la voyais plus du tout, sans aucune raison.
Ouais.
Donc du coup, en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et comme on était un groupe de 4, mes autres amis, en fait, étaient au courant du pourquoi, du comment, sauf moi. Et en fait, j'ai appris après coup que c'était parce que son petit ami était très, très jaloux et qu'il ne concevait pas l'amitié fille-garçon.
Ah oui, donc il pensait que c'était pas normal que vous soyez amis entre une fille et un garçon, quoi.
C'est ça, exactement. Et en fait, il me détestait avant même de m'avoir rencontré.
Ah oui, c'est lui qui vous détestait, d'accord.
Oui, c'est ça, oui. Non, moi, j'avais jamais rencontré cette personne.
Et pourtant, alors vous dites que vous ne l'avez jamais rencontré, mais quand vous dîniez encore avec elle, il était présent par SMS.
C'est ça, oui, exactement. En fait, son téléphone était sur la table et on apercevait certains SMS qui lui disaient « n'oublie pas les règles, n'oublie pas de faire attention », ce genre de choses.
Et « n'oublie pas les règles », ça voulait dire quoi ?
Bah, j'imagine que c'était « fais pas de conneries », quoi, entre guillemets.
Donc c'était à la fois avec vous ?
Ouais, avec
et puis
moi,
il y avait aussi, ouais. Il lui disait n'oublie pas les règles, c'est-à-dire ne bois pas trop d'alcool, c'était ça, non ?
C'est ça, exactement, oui, parce qu'en fait, après coup aussi, j'ai compris que les propos étaient qu'on la dévergondait, qu'on l'incitait à boire, qu'on trop faire la fête, et du coup, lui, il supportait pas ça, et il avait vraiment mainmise sur elle, en fait, et du coup, c'était vraiment, tiens-toi à carreau, bois pas trop, sinon après, tu vas finir complètement ivre, quoi.
Ouais. Et en même temps, il l'a laissé sortir à ce moment-là encore.
Bah, il l'a laissé sortir, mais on sentait que c'était compliqué. Elle avait pas, elle avait peur. Enfin, elle cherchait des excuses pour parfois ne pas venir. Et puis les fois où on la voyait, en fait, on sentait qu'elle était, elle était pas là, en fait. Elle était, je pense qu'elle était très stressée, en fait.
Et vous avez essayé de lui parler, non ?
Alors moi, non, parce que je savais que. Je comprenais la cause. Après, j'avais deux autres amis qui étaient ces bonnes copines, en fait.
Ouais,
c'est ça. Et qui en parlaient avec elle. Mais moi, en fait, j'avais pas trop envie d'en parler parce que je trouvais ça complètement absurde et complètement injuste. Enfin, j'ai déjà essayé d'avoir des discussions avec elle, mais je voyais bien qu'elle cherchait des excuses pour me dire non, mais c'est pas ça, c'est pas mon copain, etc. C'est juste moi, j'aime pas trop faire la fête, j'aime pas trop sortir. Alors qu'en fait, 4 ans avant, tout se passait très bien, en fait.
Avant, elle sortait avec vous avec plaisir,
oui,
donc vous savez.
Mais c'est ça, ouais.
Et j'ai du mal à comprendre pourquoi vous n'arriviez pas à lui parler directement en lui disant bah, regarde, il y a 4 ans, tu aimais bien sortir, alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il t'empêche de sortir ? Non, ça, vous n'avez jamais pu parler comme ça avec elle ?
Bah, j'en ai parlé, mais si vous voulez, après, quand quelqu'un est amoureux et qu'il ne voit pas, en fait, la situation, c'est comme si vous parliez à un mur, en fait. Donc, ouais. J'en parlais, mais de toute façon...
Et qu'est-ce que vous lui disiez ?
Je lui disais, mais c'est pas possible, il peut pas te laisser autant soumettre par un homme, en fait. Je trouve qu'en 2019, en tant que femme, je trouve ça un peu...
Ouais.
Un peu bizarre, en fait, surtout qu'elle avait des propos un peu, plutôt féministes, en fait, on va dire.
Jusque-là.
Au départ. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc, il disait, non, mais je comprends pas les filles qui se laissent influencer par leur petite amie. Et en fait, là, elle faisait exactement la même chose. Donc, je lui disais, mais écoute, tu te rends pas compte que là, t'es en train de tomber dans le panneau et tu te prives de tes libertés pour lui.
Et qu'est-ce qu'elle répondait ?
Mais non, je suis bien dans ma relation. C'est parce que, elle cherchait
à minimiser.
À le justifier, ouais. Mmh. Surtout que des fois, il appelait en soirée et elle s'isolait dans la salle d'à côté et on entendait des discussions un peu, on va dire...
Houleuses.
Ouais, houleuses, c'est ça. Et elle revenait en disant non, mais c'est bon, c'est OK. Alors, je suis pas sûr que c'était vraiment OK. Mmh. Mais elle essayait de temporiser le truc en disant non, mais c'est pas grave, c'est juste qu'il est inquiet parce que je vais rentrer tard. Enfin, il y avait aucune raison, en fait, de s'inquiéter, mais je pense que c'était juste de la jalousie et de la possessivité.
Oui, vous dites il est jaloux, macho et manipulateur. Ça, c'est votre diagnostic.
Ouais,
ouais. On en parlera avec Hélène Vicelli tout à l'heure. Est-ce que vous avez finalement pris vos distances avec votre amie ?
Oui.
Voyez plus et qu'est-ce que ça vous provoque comme sentiment de cette distance que vous avez mise ?
Au début, j'étais déçu, très déçu même, et en colère aussi. Mm-hmm. Enfin, je comprenais pas qu'on puisse se laisser manipuler, surtout que mes autres amis en fait étaient proches d'elle et lui répétaient sans cesse que c'était pas normal et que elle avait pas à sacrifier ses relations pour une personne en particulier.
Ouais. Et même ses amis-là, elle les entendait pas non plus.
Non, en fait, elles ont commencé, elles aussi, à moins la voir, surtout qu'elles étaient dans la même ville. Moi, j'étais dans une autre ville, en fait, donc je la voyais déjà moins de base. Et on se parlait de temps en temps via les réseaux sociaux, mais
maintenant, c'est fini.
On se parlait de moins en moins, et maintenant, c'est fini parce que moi, j'ai coupé les ponts, en fait.
Et elle est toujours avec cet homme ?
Oui, elle est toujours avec.
Alors, je vais me tourner maintenant vers une dernière fois vers vous, Hélène Vecchiali. Vous avez été psychanalyste. Et comment peut faire Antoine, et ses amis pour que leur ami qui est sous l'emprise, visiblement d'un homme, réagisse?
Mais effectivement, c'est très très difficile. À part lui parler, mais on entend bien qu'Antoine a essayé, que les amis ont essayé, et que les personnes, les victimes, à minima du manipulateur, mais ça ressemble beaucoup à un pervers narcissique, les victimes sont sourdes et ne peuvent pas entendre, donc c'est compliqué.
Il n'y a rien à faire ?
Il y a à faire avec les gens qui seraient beaucoup plus proches que cette amie. Est-ce qu'elle a un frère ? Est-ce qu'elle a une sœur ? Oui. Est-ce qu'ils connaissent ses parents ?
Des parents, oui.
Là, c'est la famille vraiment très très proche qui peut peut-être intervenir. Le médecin traitant, parce que si elle est vraiment sous emprise, elle doit être mal. Et les victimes de pervers narcissiques dorment souvent mal, ont de l'hypotension, des problèmes de peau, de respiration. Enfin, il y a des alertes physiques. J'entends la colère d'Antoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les victimes sont victimes malgré elles. C'est-à-dire que les pervers ont une stratégie diabolique. Et que face à cette stratégie diabolique, les victimes sont vraiment perdues. On ne peut pas leur en vouloir. Elles sont complètement perdues et incapables de raisonner correctement. Donc là, c'est vraiment de la compassion et puis surtout de voir comment on peut les aider.
Alors vous entendez, Antoine, merci vraiment de nous avoir fait partager cette expérience. Bonne chance. Merci aussi à Alice, Thomas, Géraldine et Philippine de nous avoir raconté ces épisodes de leur vie. Et à vous, Hélène Vecchiali, pour votre éclairage.
Merci.
Grâce à votre expertise et vos témoignages, on aura compris qu'on a tous dans notre caractère des traits de personnalité difficiles, un peu de rigidité, un peu de narcissisme, un peu de paranoïa ou d'anxiété. C'est parfois utile. Non, ceux qui posent vraiment problème, ce sont ceux chez qui ces traits sont exacerbés et qui sont incapables de le reconnaître. Alors pour les gérer, nous avons appris qu'il fallait savoir poser des limites très vite avant que la situation ne s'installe, ne pas rester seul, partager son stress et ses difficultés avec ses collègues ou la DRH, savoir se protéger, ne pas prendre les attaques pour soi, mettre ses personnalités toxiques à distance et la plupart du temps accepter l'autre tel qu'il est. Il n'a pas choisi d'être narcissique ou parano. Accepter aussi que celui qui nous agace, nous irrite, nous insupporte est souvent dans la souffrance et essayer de la comprendre et s'il est possible parfois, le ou la guider en douceur vers un psychiatre ou un psychothérapeute.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons d'un sujet pas banal, les trouples, c'est-à-dire les couples à trois, deux femmes, un homme ou deux hommes, une femme. Est-ce qu'ils existent vraiment ? Nous nous poserons la question. Alors si vous vivez une histoire d'amour à trois, sous le même toit ou pas, ou si vous avez essayé ou que vous aimeriez bien vivre cette expérience, appelez-nous au 39 21 pour témoigner. Merci à Caroline Baudry et Benjamin Lévesque au caractère si facile pour la préparation de cette émission. Et pardon Benjamin d'avoir à me supporter. Un grand merci aussi au délicieux Boris Paczynski pour la réalisation. Et merci à vous, souriante Marlène, de m'avoir accompagnée pendant cette émission.
Oh, merci à vous, adorable Ève Roger.
Je vous laisse maintenant avec Karima Charny pour 2 heures de musique. On bouge, on danse, on se déhanche. C'est dès 16h sur Europe 1. À lundi.